Bienvenue, vous écoutez Le Rhumatisme et moi, un podcast de la Ligue Suisse contre le rhumatisme. Le thème d'aujourd'hui, c'est le rôle des proches aidants, que nous abordons avec Sylvie et Jacques, un couple qui a appris à vivre avec la maladie de Sylvie, une sclérose systémique avec fibrose pulmonaire, qui s'est manifestée il y a maintenant 4 ans. Pour chacune et chacun, apprendre à communiquer ses besoins, ses peurs, ses attentes et ses limites a été un grand défi. Mais de cette épreuve sont nées une force et des rencontres insoupçonnées, vous en apprendrez plus dans cet épisode. Bonne écoute! Alors bonjour Sylvie, bonjour Jacques, merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui pour cette interview. Comment allez-vous?
Bonjour, oui, écoutez, ça va, tout doucement, un jour après l'autre, mais dans l'ensemble ça va, en ce moment c'est assez stable.
Moi je vais assez bien. J'ai une période nouveau où je suis bien parce que j'ai quand même vécu aussi de mon côté quelques petits problèmes de santé qui sont maintenant, j'espère, derrière. Mais on va dire que tous les jours qui passent, c'est un cadeau maintenant.
Depuis quand êtes-vous ensemble tous les deux ?
On est ensemble depuis juin 2008. Nous sommes rencontrés en jouant aux cartes. C'est pas banal pour des Valaisans en Suisse. On joue au YAS et on s'est rencontrés sur une plateforme qui faisait des jeux en ligne. Et puis un jour, on a décidé de se rencontrer et puis on s'est plus quittés.
Il y a 16 ans maintenant.
Il y a 16 ans.
C'est quand même pas mal. Hein.
Mm-hmm. Puis dans la vie professionnelle, qu'est-ce que vous avez fait ou faites maintenant les deux ?
Moi, j'ai complètement arrêté mon activité. J'avais fait 35 ans dans la banque et puis depuis 50 ans environ, j'ai fait des transmission d'entreprise, surtout chercher un patron pour remplacer un qui partait à la retraite. Voilà, j'ai eu beaucoup de plaisir à faire ça.
Et puis moi, plus de 30 ans, j'ai travaillé à la poste, d'abord au guichet et ensuite comme responsable de petits offices de poste. Et puis maintenant, je ne travaille plus.
Alors Sylvie, de votre côté, vous êtes atteinte de sclérodermie, de sclérose systémique avec fibrose pulmonaire. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quelques mots en quoi consiste cette maladie ?
Alors c'est une maladie qui atteint tous les organes internes. C'est-à-dire qu'elle atteint les poumons, le cœur, les reins, le foie, enfin, tout ce qui est interne, toutes les douleurs articulaires, tout vient de là. Quand on me voit, on ne me voit pas malade, mais c'est tout à l'intérieur que ça se passe chez moi.
C'est invisible.
C'est invisible, oui.
En plus de cette fibrose pulmonaire, est-ce que la maladie elle a d'autres conséquences ?
Elle a des conséquences chez moi, beaucoup c'est les poumons et l'œsophage qui est beaucoup atteint, donc j'ai beaucoup de problèmes pour manger correctement. Je mange, mais souvent je le paye assez fortement, soit par des vomissements, soit en devant aller aux toilettes.
Puis à la base, comment est-ce que vous aviez appris que vous étiez atteinte de sclérose systémique ?
Alors mon parcours il est un peu atypique parce qu'au début on m'a diagnostiqué une fibrose pulmonaire idiopathique parce que je toussais beaucoup. Je suis allée chez le médecin en pensant que j'avais une bronchite et suite à 2-3 examens de scanner et visite chez une pneumologue, on m'a diagnostiqué une fibrose pulmonaire idiopathique. Ensuite, j'ai été traitée par d'autres personnes et c'est là qu'on m'a encore diagnostiqué une autre maladie auto-immune qui s'appelle la sclérodermie systémique. Donc au début, j'ai vu mon médecin traitant qui m'a fait faire un scanner et suite à ça, j'ai été voir une pneumologue. Et encore après, j'ai été suivie, prise en charge par le CHUV, où là, je vois beaucoup de spécialistes. Il y a un professeur pneumologue, il y a un immunologue, il y a un cardiologue, il y a un gastro-entérologue, il y a une rhumatologue. Enfin, tout ce qui existe comme spécialiste pour le corps à l'intérieur de notre système.
Donc, ça a pris quand même un certain temps avant d'obtenir ce diagnostic. Jacques, de votre côté, comment ça s'est passé cette période? C'était en 2019 et 2020, c'est ça?
Oui.
Alors, tout s'est passé à peu près toujours la même chose, c'est-à-dire qu'on a appris, les maladies successivement, pas toutes d'un coup, et chaque fois c'était un coup supplémentaire qui nous arrivait, quoi. Et puis, à chaque fois, on a fait attention de ne pas paniquer tout de suite, d'essayer de rechercher la meilleure solution. J'ai la chance d'avoir beaucoup d'amis dans le corps médical. J'ai pu en parler un peu avec eux. Ils m'ont ouvert un tout petit peu l'esprit. Ils m'ont aussi expliqué ce qui allait peut-être se passer, ce qui se passait et comment on allait traiter. Et puis ça nous a quand même aidé parce qu'en fait, avec ça, on avançait avec pas seulement d'aller pleurer dans notre coin, mais on essayait toujours de chercher une solution, de voir qu'est-ce qu'on pouvait faire pour avoir un meilleur meilleure vie, en fait, finalement, c'est ça. Et puis, ça nous a beaucoup aidé d'avoir des gens qu'on connaissait, qui nous donnaient des informations et qui, à quelque part, nous épaulaient aussi un peu.
Et Sylvie, vous l'avez vécu comment, cette annonce du diagnostic ?
Moi, je le dis souvent que j'ai été plongée dans un abysse, vraiment un trou sans fond, noir, mais très noir à un moment donné, que je ne voyais pas la fin, parce que personne pouvait totalement répondre à mes questions, parce que c'était vraiment un mal inconnu pour moi. Je n'avais jamais entendu parler de ce nom, de cette maladie. Et puis au final, on a plein de questions, mais souvent, on ne peut pas y répondre. Et puis là, je ne vivais pas très bien à ce moment-là.
Jacques, ça vous a fait peur, cette incertitude ?
Bien sûr, parce qu'en fait, la seule chose qu'on est capable de vous dire, c'est que c'est une maladie qui pourrait avoir des effets rapides et puis jusqu'à un décès assez rapide. Et puis d'un autre côté, on vous dit, peut-être qu'avec les médicaments qu'on a aujourd'hui, on va pouvoir bloquer la maladie et puis vous aurez une vie un peu moins facile, mais vous pouvez vivre encore longtemps. Donc ça, c'était quand même un problème assez important pour nous parce que ça nous a encore un peu secoué. Sylvie et moi, on a une différence d'âge de 19 ans et puis dans notre esprit des deux, jusqu'à maintenant, c'était évident que c'était moi qui allais partir en premier. Et puis là, maintenant, on n'était plus sûr, bien que je pense que ce sera toujours la même chose. Mais disons, c'est quand même des choses qui vous secouent un peu parce que tout d'un coup, vous n'avez plus d'horizon. C'est comme lorsque vous avez un cancer, puis qu'on vous fait des contrôles tous les 3 mois. Vous avez 3 mois devant vous, mais vous ne savez pas après ces 3 mois, qu'est-ce qui va vraiment se passer.
Jacques, comment est-ce que vous avez pu soutenir Sylvie dans cette période au début ?
Alors, ce que je pense qu'il faut qu'il reste, ce que je dis, c'est que les gens qui accompagnent des personnes malades, il faut qu'ils soient très calmes et qu'ils soient présents. Présent, ce n'est pas une fois par jour, 10 minutes, venir voir si ça se passe bien, c'est d'être là, toujours proche et puis disponible. Et cette disponibilité, elle est super importante parce que dans la maladie, il y a des hauts et des bas et des moments, c'est pas facile. Et puis là, vous devez être présent et vous devez aussi être présent quand tout va bien pour être le partenaire aussi avec qui vous avez plaisir à faire quelque chose. Donc c'est, je pense qu'il faut avoir, c'est de la disponibilité et puis surtout ne pas paniquer et puis y aller les choses de manière très calme.
J'ai vraiment beaucoup de chance avec mon mari parce qu'il fait énormément de choses à la maison déjà. C'est un très, très grand cuisinier, donc je mange très bien. Et puis surtout, il m'aide vraiment dans mes tâches quotidiennes quand je ne peux pas toujours tout faire ce que je peux. Puis il faut aussi savoir qu'il y a des matins où je ne me lève pas du lit, donc il est là tout le temps. Il vient voir dans la chambre si tout va bien, il m'amène quelque chose à boire ou à manger. Puis ce n'est pas toujours facile quand on n'est pas bien parce qu'on ne veut pas donner du souci à l'autre. Mais on ne le fait pas exprès, la maladie elle est là et puis il y a des jours où c'est mieux que d'autres. Il y a une mauvaise période que j'ai été mise sous cortisone avec une très haute dose et je ne me levais vraiment pas du lit. Il devait même m'accompagner sur les toilettes. Vraiment j'étais en mode zombie et c'était pas facile pour moi d'être comme ça, mais je pense que ça n'a pas dû être facile pour lui non plus de me voir comme ça.
Moi ce que je dis aussi souvent c'est pour soutenir quelqu'un qui est malade, il faut être présent. Il faut être là. Vous ne pouvez pas faire ça à distance. Vous devez être là. Et je crois que c'est important d'avoir cette vie qui a changé pour nous, mais qui est très agréable, je vous dis quand même, parce qu'on a un peu plus de loisirs, on a un peu plus de temps libre. On n'a pas besoin de se lever à 6h30 le matin, sauf de temps en temps. Mais disons, on a la capacité de regarder un deuxième film à 10h le soir, si on veut. Il y a beaucoup de chances, beaucoup de choses sympas. Mais je répète, soutenir, c'est être présent.
Ça demande du temps aussi, alors.
Oui, mais bon, on a tout ce qu'on veut maintenant.
Avec la retraite, un peu plus.
C'est bien ça.
Comment est-ce que vous êtes renseigné sur la maladie au début, Jacques ?
Bon, moi, comme je vous ai dit, je connais beaucoup de monde dans le domaine, dans le corps médical, et puis j'ai eu quelques entretiens assez clairs sur qu'est-ce qu'était la maladie, comment elle pouvait évoluer, et puis on a aussi eu la chance par ce biais-là d'avoir des gens qui sont proches de nous, qui nous ont aidés à trouver peut-être les bonnes personnes, et puis d'avoir les bons rendez-vous. C'est ça, on dit quand même, on a la chance d'être suivi au CHUV, c'est un hôpital public, on n'a pas besoin d'être dans une clinique privée, mais on a des compétences, à mon avis, qui sont extraordinaires.
Sylvie, est-ce que vous invitiez Jacques à vous rendez-vous chez le ou la rhumatologue ?
Oui, vraiment, il m'accompagne tout le temps. dans la mesure du possible, sauf s'il a un autre rendez-vous qu'il ne peut vraiment pas déplacer. Mais il est tout le temps présent, il est tout le temps là, y compris chez mon médecin traitant, partout, partout, chez la rhumatologue, la pneumologue, le pneumologue, le cardiologue, tout le temps, il est tout le temps là. C'est aussi important d'avoir un autre, une autre personne qui écoute ce qu'on a à vous dire, parce que quand je me rappelle au tout début, la première fois qu'on nous a annoncé ça, ben, il a capté d'autres choses que moi, je n'ai pas beaucoup capté, ou inversement. Et puis, en fait, après, on a discuté ensemble en rentrant dans la voiture et on a pu mettre à côté certains mots que peut-être toute seule, je n'aurais pas eu. Parce qu'il y a eu le choc et finalement, c'est bien d'être accompagné tout le temps.
Il y a une chose qu'on n'a pas dite pour l'instant, c'est aussi c'est que si vous vous enfermez, vous, à la maison, dans votre maladie, dans votre lit, dans votre chambre, c'est que vous allez perdre vos amis. Parce que vous n'allez plus les voir. Alors, ce qu'il faut faire, c'est quand même, là, on fait le contraire. C'est-à-dire, on essaie de voir le maximum de monde et puis de garder un contact important avec plein d'amis qu'on a. Sylvie, elle, c'est elle-même la championne du monde, toute catégorie, parce qu'elle a encore des contacts avec ses anciens collègues et qu'elle voit très rapidement. Donc, si vous voulez atteindre Sylvie, c'est très difficile parce que son agenda est très pris.
Non, ce qui veut dire, c'est que j'entretiens toujours mes ex-collègues pour de temps en temps aller boire un petit café, mais ça me fait du bien aussi de les voir, de sortir de mon contexte de la maison, de mon mari, que j'adore, mais ça fait aussi du bien d'avoir d'autres personnes aussi autour de soi.
Si vous voulez, la maladie, ça ne doit pas vous empêcher d'avoir une vie sociale. On a maintenant, quand on est un peu plus âgé, on peut aller voir le film au cinéma de la séance de l'après-midi. Mais on a quand même envie d'aller le voir, de voir du monde et puis de rester au courant de tout ce qui se passe.
Donc c'est aussi un défi de ne pas subir tous ces changements qu'implique la maladie. Mais peut-être vous, dans votre quotidien, est-ce qu'il y a des choses qui ont changé drastiquement à partir de 2020 ?
Alors, c'est sûr qu'avec la maladie, je suis très très vite essoufflée, je suis beaucoup fatiguée. Donc, c'est sûr que dans mon quotidien, ce que je passais l'aspirateur avant en 5 minutes, maintenant, je vais le faire en une demi-heure, et par pause, par arrêt, à reprendre son souffle et tout. Tout est conditionné par rapport à mon souffle et ma fatigue et mes douleurs. Mais c'est sûr que dans mon quotidien, beaucoup de choses ont changé, bien évidemment.
Est-ce qu'il y a des activités que vous faisiez avant ensemble et puis que la maladie a rendu impossible de faire ou qu'il a fallu faire différemment ?
Alors moi, je faisais énormément de ski à l'époque, avec Jacques bien sûr, mais avant de le connaître. Et ça me pèse encore à l'heure actuelle de plus pouvoir en faire parce que mon souffle déjà et puis l'oxygène, hein, plus de 2000 mètres, moi ça commence à être très très compliqué pour respirer. Alors cette année, ça serait un peu compliqué de skier dans les basses stations. Donc monter plus haut, j'aurais de la peine maintenant. Ça me pèse vraiment le plus à l'heure actuelle de ne pas pouvoir refaire du ski. Mais je ne ferme pas la porte, peut-être qu'un jour ça reviendra.
Vous avez découvert d'autres activités entre-temps ?
Elle est devenue écrivaine, hein, ça c'est déjà c'est une première chose. Et puis surtout, ce qui a un peu changé, c'est cette relation extraordinaire qu'on a avec nos amis canadiens. Quoi, voilà. Donc on se voit très régulièrement, et puis on a un contact, on va dire, journalier.
Parce qu'on a parlé de relations amicales, mais je crois que vous avez une relation particulière avec une personne qui a vécu la même chose que vous, dont vous pouvez peut-être me parler
oui,
ici.
Oui, alors dès que j'ai été diagnostiquée, donc en 2020, j'ai commencé à vouloir trouver des réponses à mes questions que mon mari ne pouvait pas répondre parce qu'il est tout le temps là, mais il n'a pas toutes les réponses. Puis les médecins, on pose leurs questions, mais ils sont médecins, ils étudient, mais ils ne ressentent pas. Et je me suis mise sur un groupe Facebook que les personnes ont la même maladie que moi. Et pourquoi j'ai écrit à Chantal et pas à une autre personne, je saurais vous expliquer. Je l'ai relancée à 2 reprises. La première fois, elle ne m'a pas répondu et la deuxième, elle m'a répondu. Et depuis, c'est vrai que tous les jours, on se parle, que ce soit par écrit, par Messenger, par téléphone. Ils sont venus nous voir. On était en pleine période Covid en 2020, donc c'était compliqué. Dès qu'ils ont pu... La Suisse a d'abord ouvert les frontières aux étrangers, donc ils sont d'abord venus, eux, une semaine. Et ensuite, nous avons été là-bas. Ils sont revenus, on est retournés assez régulièrement. On va au Canada et ils viennent ici en Suisse. C'est vraiment plus qu'une amie, pour moi, c'est vraiment devenu une sœur de cœur. Même ma famille la considère comme de notre famille. Et c'est très important. Et c'est suite à ça que j'ai voulu écrire un livre qui raconte cette histoire. Donc d'abord la maladie, mais cette rencontre fabuleuse que j'ai eue avec Chantal.
Qu'est-ce que ça a fait de pouvoir parler avec quelqu'un qui vivait la même chose que vous ?
Ben nous, on se comprend en fait. Quand je lui dis que j'ai tel et tel mot à l'intérieur de mon corps, elle le sait parce qu'elle vit la même chose que moi, à un degré certes différent, parce qu'on n'a pas tous les mêmes mots en même temps, mais elle le comprend et elle le vit à l'intérieur. Donc elle sait combien ça fait mal à l'intérieur de soi.
Je crois qu'aussi, ce qu'il faut dire, c'est qu'en ayant un contact avec une personne qui a la même maladie que vous, vous pouvez vous décharger des soucis, des problèmes, des questions que vous avez sur l'autre personne qui a la même chose. Il n'y a pas une relation de quelqu'un qui est malade par rapport à quelqu'un qui est un médecin ou qui veut essayer de vous soigner. Vous avez deux malades ensemble qui parlent de la même chose. Ça, c'est vraiment important. Parce que, puis ça a fait surtout que le lien est devenu très proche.
Est-ce que les jours où vous n'alliez vraiment pas bien, ça simplifiait les choses pour vous de pouvoir la voir en ligne depuis chez vous ?
Oui, à l'heure actuelle, avec les nouveaux moyens de communication qu'on a, c'est formidable. On peut même se voir à distance, en visio. Donc, on prend son téléphone, on fait FaceTime et puis elle est là, à côté de moi, presque dans le lit, si on veut dire. Les jours où je ne suis pas bien ou que je suis dehors puis que je lui montre déjà l'avancée de la pousse des fleurs, que chez elle, c'est encore recouvert de 20 cm de neige ou de glace. C'est sûr que ça change. Il n'y a qu'une chose qui est embêtante, c'est le décalage horaire, hein. On a 6 heures de plus, mais bon, on s'est vite habitué. Puis si on ne dort pas à minuit ou 1 heure du matin, ben on peut toujours lui écrire. Elle va répondre, passer dans l'après-midi. Et puis vraiment, c'est vraiment incroyable cette amitié, même plus que de l'amitié que j'ai pour Chantal. Oui. Vraiment, elle m'a ouverte vraiment plein de choses.
Ce qu'il y a aussi d'intéressant dans cette rencontre, c'est que Chantal est aussi mariée avec un mari qui est très attentionné. Et qui fait beaucoup aussi pour elle. Et puis, en plus de ça, c'est que entre, il s'appelle Jean-François et moi, on a une complicité, ou comment on va dire ça, une amitié un peu plus assez forte qui fait que on est capable de se parler de choses, et de dire, faire des commentaires sur les posologies de médicaments qu'elles doivent prendre. Donc, ouais, à quel point. Et lui, il a aussi l'habitude de voir beaucoup de monde, de grandes équipes, puis. Il est DRH et il gère 6000 personnes, donc on a quelqu'un en face qui a l'habitude des problèmes. Mais c'est juste génial, hein, parce qu'on a aussi une connexion qui est très proche.
Parce que vous, en tant que proche aidant aussi, ça valait la peine. Oui. C'était intéressant pour vous d'échanger aussi avec quelqu'un qui vivait ça.
Tout à fait.
Ça vous a aidé
Oui, parce que souvent, on parle de la maladie les deux ensemble, sans que les filles soient là. Et puis, on a plaisir à avoir un peu d'activité entre nous. Qui peuvent se réaliser à notre niveau. Voilà.
Alors, comment il s'appelle le livre et quel message vous vouliez faire passer à travers ce livre ?
Alors, le livre, il s'appelle « Sœur de cœur », que je vous le présente ici, « Une amitié qui défie la maladie ». C'est un livre que j'ai écrit avec l'aide de Georges Pop, que je pense vos auditeurs connaîtront sûrement, parce qu'on ne s'invente pas écrivain du jour au lendemain. Donc, on a vraiment collaboré tous les deux pour écrire ce livre. Et puis, c'est vraiment un livre témoignage. Hein, donc, on ne parle pas de roman. Donc, bien sûr, il y a mon histoire, mais c'est surtout l'histoire que j'ai avec Chantal et cette rencontre qu'on a eue toutes les deux, que j'ai voulu le mettre dans le livre, parce que c'est ça qui est important pour moi. C'est le message que je veux délivrer derrière, c'est qu'il ne faut pas rester seul dans son coin, à se morfondre dans son lit quand on est malade, peu importe finalement la maladie. Mais finalement, avec les moyens qu'on a actuellement avec Internet, on arrive à trouver des gens à l'autre bout du monde, mais qui ont la même chose que soi, et finalement, on arrive bien à se comprendre. Et c'était ça que j'avais envie de raconter.
Quand vous avez cette maladie, vous avez pratiquement plus d'immunité. Et, par exemple, maintenant, on va changer de médicament, je ne vous donne pas de nom non plus, mais changer de médicament qui va remplacer un autre et qui aura en plus la capacité de soulager un tout petit peu les problèmes d'articulation. Mais pour faire ça, vous devez faire tous les vaccins qui existent au monde avant, et puis ça donne une période assez compliquée. Parce que ce n'est pas facile de vivre avec des vaccins, surtout quand vous n'avez pratiquement pas d'immunité. Pardon. Et puis que vous pouvez développer très rapidement la maladie qui est protégée par le vaccin. Quoi, c'est ça. Maintenant, on a une période un peu compliquée, il faut faire tous ces vaccins tous les 15 jours. Mais voilà. Puis après, ce qu'on ne vous a pas dit, c'est que c'est arrivé quand même pendant le Covid. Et je ne vous explique pas quels étaient pour nous les problèmes. On a dû vivre deux fois avec une, des chambres séparées, on va dire comme ça.
Oui, parce que toi, tu avais un risque, oui.
Ouais. Et puis, on voulait... Moi, je croisais quand même du monde. Enfin, on ne voulait pas prendre le risque que Sylvie se fasse infecter par le Covid. Donc, on a eu des confinements un peu compliqués. On s'est fait livrer même de la nourriture à la maison. Donc, on n'a pas bougé pendant assez longtemps. Nous, on sait ce que c'est.
Mmh. C'est sûr que c'est difficile de vivre avec une maladie auto-immune parce qu'on doit vraiment se protéger de tout. On peut pas se permettre d'attraper un seul virus parce que là, ça attaque notre système et il est déjà à zéro, mon système immunitaire. Donc, même une simple grippe chez moi, c'est vite compliqué, quoi. Donc, du coup, là, on est en train de vouloir me changer de traitement. Ben, il faut supporter les autres effets et puis il faut faire des vaccins en plus et en plus et en plus parce que mon système immunitaire, il est à zéro. Donc on essaye de le booster et puis bien sûr on évite de plus possible, donc on continue de garder le masque et ça des fois je dois dire que le regard des gens il n'est pas bienveillant toujours, des fois je ne le vis pas toujours bien mais je suis presque contente d'avoir le masque pour leur tirer la langue à personne qui ne me voit pas. Oui. Mais au final je me dis que je suis protégée derrière mon masque et je suis contente de l'avoir finalement.
Vous nous disiez avant qu'est-ce qui a changé, hein, qu'est-ce qui a changé avec la maladie. Mais ça, c'est un effet. On ne peut pas aller faire le carnaval ou les brandons de Payerne. Parce qu'il y a trop de monde et puis c'est trop dangereux. Donc nous, quand on voit des foules, pour nous, ça nous fait un peu... C'est dangereux, donc ça fait peur. Donc on doit vivre un tout petit peu, pas caché, loin de là. On peut quand même vivre au milieu des gens. Mais disons, s'il y a trop d'agglomération de personnes, on ne va pas.
C'est pour ça que je garde tout le temps le masque, même si je vois qu'on va au cinéma, on essaye de choisir les séances où il y a le moins de personnes. Mais si on va au cinéma et que tout d'un coup ça se remplit, je mets le masque direct. J'essaye de m'isoler, d'être toujours dans un coin, donc rarement au milieu de la salle, pour éviter d'avoir personne à côté de moi, pour éviter qu'on me tousse dessus ou qu'on me donne quelque chose. C'est terrible. Hein. Mais le regard, il n'est pas toujours simple. Et même dans mes amis, des fois, les gens ils me voient et puis ils me disent « Oh, mais qu'est-ce que tu as l'air bien aujourd'hui, tu as l'air en forme, tout. » Ben, oui, mais bien sûr que je suis quelqu'un qui ne me plaint pas beaucoup, qui sourit assez facilement. Ben oui, mais je ne vais pas porter toute la misère de mon monde sur ma figure. Donc c'est sûr, mais personne ne le voit à l'intérieur, comment c'est compliqué. Mmh. Et tant mieux, parce que ce n'est pas le but non plus.
Donc manque un peu de compréhension et puis oui. d'indulgence ou de la part des gens ou...
Pas tellement de manque de compréhension parce que c'est pas marqué sur mon front que finalement je suis malade. Les gens qui me connaissent vraiment, ils le savent. Mais je me balade là dans la rue, vous prenez 10 personnes, il n'y en a pas une qui va vous trouver que j'ai l'air malade. Même vous, je pense que vous êtes en train de vous dire, mais voilà. Qu'est-ce qu'elle fait, celle-ci, en face de moi ? Elle n'a pas l'air malade, mais c'est normal, parce que vous me voyez comme ça, souriante et un peu la peau tannée par le soleil valaisan. Mais autrement, c'est sûr que l'intérieur de mon corps, il est pas en bon état. Voilà, mais ça, c'est comme ça.
Malgré les aspects négatifs et les symptômes qu'amène la maladie, est-ce que maintenant, avec le recul, vous pourriez dire qu'il y a aussi un aspect positif, une force qui est ressortie de cette période traversée ?
Une force, je pense que je l'avais déjà en moi. La force, pas capona, j'habite à Savièse, c'est la devise de Savièse. Hein. On ne doit pas capituler, donc c'est exactement ça. Et je l'applique vraiment de plus en plus tous les jours. J'ai eu une période très compliquée, vraiment les deux premières années, je ne parlais pas comme ça, j'avais vraiment des idées pas très sympas. Mais là, j'ai passé par-dessus, où je ne sais pas si c'est toujours en moi, mais disons, j'arrive à avoir le bon côté, le meilleur côté, on va dire, et de se dire que dans la médecine, ils vont nous trouver des médicaments qui vont pouvoir nous soulager, ou, ce qui est mon cas actuel, que ce soit stable, puis j'espère que ça va le rester encore longtemps, mais ma force, elle vient de moi, je pense que je l'avais déjà au fond de moi-même.
Moi, je pense que ce qui m'a beaucoup... marqué. Je savais que les gens qui travaillaient dans des hôpitaux tels que le CHUV étaient des gens extraordinaires, mais je ne pensais pas que ces gens étaient aussi travailleurs qui sont prêts à faire de la recherche, à s'investir, qui sont aussi proches de leurs patients, à l'écoute d'eux. Moi, on a fait beaucoup d'entretiens avec le collège de ces professeurs. C'est juste incroyable ce qu'ils sont proches de leurs malades, la capacité qu'ils ont à être gentils avec eux et puis de les rassurer, de d'avoir un entretien très positif. Donc moi, ça m'a beaucoup marqué. Je trouve que chaque fois qu'on va, il y a ce côté positif où on se dit, mais qu'est-ce qu'ils sont gentils, ces professeurs avec nous, quoi. Ils nous prennent en charge. Et ça a changé un peu par rapport à moi. Je pensais que c'était souvent des profs qui sont à l'Uni et puis qui vivent dans leur tour d'argent. Là, puis finalement, non, c'est pas vrai. Ils sont très proches de tout le monde. Et ils ont, en tout cas, pour nous, ils ont été fantastiques. Voilà.
Donc vous avez été proche du personnel de santé, mais est-ce qu'il y a peut-être des associations, des structures ou d'autres personnes qui vous ont aidé dans toutes ces étapes ?
Moi, beaucoup m'a aidé avec l'association suisse de la sclérodermie, qui est spécifique vraiment pour la Suisse romande. On a une personne de référente et elle est vraiment extraordinaire. Elle est même venue à la maison parce que, encore une fois, on se pose plein de questions et on ne connaît pas les réponses. Et elle est venue, elle s'est proposée un dimanche. Elle est venue, elle et son mari. Elle m'a écoutée, elle m'a beaucoup renseignée, elle m'a dirigée vers l'association. Et je dois dire que ce sont vraiment des gens mais extraordinaires. Elle est aussi atteinte elle-même par la sclérodermie, hein. Et c'est vraiment des gens extraordinaires. Après, j'ai une autre association qui s'appelle Maraval, donc Maladie Rare Valais, qui est vraiment incroyable. C'est la toute première personne à qui j'avais appelé parce que je ne savais pas qui appeler. Et après, j'ai eu l'association de la sclérodermie. Mais ce sont vraiment des gens qui travaillent dans des associations qui sont vraiment extraordinaires. On peut vraiment, vraiment bien discuter.
Peut-être pour terminer cette discussion, est-ce que vous vouliez passer un message particulier à d'autres personnes qui seraient concernées par une maladie rare ou par un rhumatisme en général ?
Je pense qu'il faut être bien entouré. J'ai beaucoup de chance en ayant mon mari auprès de moi, mais j'ai aussi ma maman, ma sœur qui sont très très présentes. Et puis bien sûr, la cerise sur le gâteau, c'est Chantal, c'est cette rencontre incroyable que j'ai eue. Je pense qu'il ne faut pas rester seul avec toutes ces histoires, ces problèmes de santé qu'on a. Parce qu'au final, quand on est tout seul, là, on sombre très vite. Je pense qu'on n'est peut-être pas tous bien entourés comme je le suis. J'ai peut-être cette chance. Mais maintenant, avec les moyens d'Internet, on a la possibilité de rencontrer d'autres personnes. Et puis, je trouve que c'est important, ça.
Merci d'avoir écouté ce 10e épisode du podcast Le rhumatisme et moi, de la Ligue suisse contre le rhumatisme. Si vous souhaitez commander le livre de Sylvie, Sœur de cœur, elle répond à vos demandes par email à l'adresse cici-ch@blueyn.ch, donc sysy-ch. Nous nous retrouvons dans 2 mois pour le prochain épisode, mais d'ici là, si vous pensez que votre histoire peut aider d'autres personnes vivant avec des rhumatismes et que vous voulez témoigner dans ce podcast, écrivez-nous à info@rheumaliga.ch, nous nous réjouissons de vous lire. Et si ce podcast vous a plu, vous pouvez nous soutenir en laissant une note sur Spotify ou sur les autres plateformes d'écoute.